tous et bienvenue dans l'émission Ensemble qui donne la parole aux associations de l'agglomération drouaise, Guy Wagner et à la technique Pierre Écart. Nous recevons aujourd'hui la Société de protection et de défense des animaux située à Serras-Heureux, plus précisément à Bouconville, avec la présence de Bénédicte Versten, responsable du site, Sylvie Aublin, présidente, et Mélissa Moyer, assistante de communication. Votre association est au service des chiens et des chats, mais aussi, ce qui est moins fréquent, pour d'autres animaux, par exemple hamsters, tortues d'eau ou chèvres. C'est un refuge qui est ouvert à l'adoption. Qu'est-ce que votre association ?
Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de Radio Grand Ciel de nous avoir invités. Alors, notre association, c'est une société de protection et défense des animaux, appelée la SPDA. C'est une association locale de protection animale. Je m'appelle Sylvie et je suis, après des années en tant que bénévole et membre du conseil d'administration, devenue présidente en mai dernier. Et à ce titre, j'ai à cœur de représenter ceux que l'on protège et tous les animaux accueillis au refuge.
Je m'appelle Bénédicte, j'ai été bénévole à partir de 2008 et suis depuis maintenant 6 ans responsable du refuge. Concrètement, je m'occupe des plannings du personnel et des bénévoles, des entrées et des adoptions des animaux.
Je m'appelle Mélissa, je suis alternante au refuge en tant qu'assistante de communication. Le matin, j'aide les soigneurs dans le quotidien auprès des animaux et l'après-midi, je me charge de tout ce qui concerne la communication autour de l'association.
Sylvie, tu peux nous en dire plus sur ce qu'est la SPDA ?
Alors, nous sommes une association, loi 1901, qui œuvre pour la protection de tous les animaux. Nous sommes autonomes et indépendants. En effet, notre nom pourrait prêter à confusion, mais en fait, nous ne dépendons pas de la SPA telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une SPA avec son siège parisien et des filiales en province. Mais nous faisons partie de ces 300 associations qui sont indépendantes. Notre mission, c'est de sauver, protéger toute espèce animale. Nous gérons un refuge qui accueille environ une soixantaine de chiens, une trentaine de chats, ainsi que ce que l'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, ce qui regroupe les lapins, les cochons d'Inde, les rats, mais aussi des chèvres, et nous avons même eu une fois un paon. Nous recueillons les animaux abandonnés directement par leurs propriétaires au refuge ou retirés pour des mauvais traitements. En revanche, nous ne faisons pas fourrière et nous ne pouvons récupérer les animaux errants. Il y a au refuge environ entre 100 et 200 animaux qui entrent chaque année. Nous ne pratiquons pas, et ça c'est très important, d'euthanasie de complaisance, sauf bien évidemment pour un animal malade. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Et chaque histoire est singulière.
Tu nous as parlé des retraits sur mauvais traitement. Ce sont souvent les plus difficiles des entrées d'animaux que l'on peut faire. Je me souviens par exemple de Tina et Tyson, deux croisés beaucerons qui ont été retirés il y a 3 ans avec la police. Tina et la mère de Tyson, ils ont moins d'un an d'écart. Tina a presque 9 ans. À notre arrivée dans un appartement d'une cité, on demande au propriétaire de les voir et sommes choqués par leur état de maigreur. Ils vivent dans un logement complètement insalubre et sale. Les deux chiens sont très rarement sortis. Nous les avons emmenés de cet appartement, conduits très rapidement chez le vétérinaire. Ils pesaient chacun 15 et 16 kilos pour un poids de forme estimé à 35 kilos. Et ils ont très vite relevé un caractère doux et gentil, sans rancune vis-à-vis de l'humain par rapport à tout ce qu'on leur avait fait subir. On les a réalimentés de manière très progressivement, leur estomac ne savait plus digérer un repas normal. Tina a été adoptée quelques mois plus tard, mais Tyson, qui va sur ses 11 ans maintenant, est toujours au refuge. Et depuis quelques mois, c'est notre gardien dans la cour d'accueil. Il profite des caresses et friandises que les visiteurs lui donnent. Et il faut dire que c'est un incorrigible gourmand, mais compte tenu de son histoire, on ne lui en veut pas. Revenons sur l'histoire de l'association.
Alors, tout a commencé en 1958 avec Madame Georgina Lezac. C'est elle qui a souhaité créer le premier refuge d'Eure-et-Loir. Et au fur et à mesure des années, Elle s'y est investie énormément avec l'aide de son fils et de fidèles bénévoles. Mais au départ, c'était à son domicile. 10 ans plus tard, en 68, au vu du nombre grandissant d'animaux, ils se sont installés à Serrazoureux. Il faut imaginer à l'époque une parcelle de forêt où les chiens étaient abrités par de simples niches. Alors progressivement, les choses se sont améliorées. Les premiers box ont vu le jour, qui ont été reconstruits et agrandis depuis d'ailleurs. Dans un deuxième temps, les box des chats ont été créés. Il y a aussi des bâtiments tels que l'infirmerie, la cuisine et l'accueil qui ont été rajoutés à l'ensemble. Les vieux chiens ont pu avoir des maisonnettes tout confort au début des années 2000. Ces deux dernières années, nous avons pu, grâce à un leg important, rénover les box des chiens qui sont maintenant couverts et ont le chauffage de l'hiver. Aujourd'hui, au refuge, nous comptons 49 box et 6 maisonnettes pour chiens, 11 box et 10 maisonnettes pour chats. En 2008, nous avons passé un partenariat avec l'hôpital de Dreux pour accueillir les animaux pendant l'hospitalisation de leur maître et on leur réserve 4 maisonnettes.
En 60 ans, on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Revenons à aujourd'hui. Mélissa, qui s'occupe des animaux et comment se déroule une journée ?
Alors, en plus de nous trois ici, il y a aussi une petite équipe composée de 2 soigneurs, Émilien et Lucie. Il y a aussi une volontaire en service civique, Noémie. Et surtout, je n'oublie pas les bénévoles qui sont plus que nécessaires à la vie du refuge. Le matin, nous nettoyons tous les box et maisonnettes, nous donnons à manger aux chats et nous occupons des nacs. C'est juste une phrase, mais cela représente environ 3 heures de travail pour 2 personnes. L'après-midi, certains bénévoles nous aident pour les promenades, quand d'autres sociabilisent les chats ou participent à l'entretien du refuge. C'est important pour chaque animal que l'on passe du temps avec eux. Les visiteurs viennent pour adopter un animal, nous apporter des dons, mais aussi pour abandonner. C'est souvent déchirant de voir l'animal qui ne comprend pas pourquoi il atterrit au refuge, au milieu de tous ces bruits, ces odeurs et avec des visages inconnus. Après la fermeture au public, nous servons les repas et nous donnons les médicaments. En fonction de la météo ou lors d'événements particuliers, tout ce programme est chamboulé. Ainsi, s'il fait très chaud, nous commençons plus tôt le matin et essayons de faire au maximum les promenades à la fraîche. Les après-midi, nous devons arroser les box et les chiens qui l'acceptent sont baignés. Les chats sont plus ombragés, nous les rafraîchissons au mieux possible. Pendant la canicule, une bénévole a eu l'idée de faire des glaçons avec des morceaux de viande avec lesquels les chiens jouaient pour les faire fondre et récupérer la viande. À cela s'ajoutent les conduites chez le vétérinaire pour des soins prévus ou urgents. Nous travaillons essentiellement avec la clinique de Nogent-le-Roi. Il y a aussi la part administrative car les textes de réglementation sont stricts et nous devons les respecter, avant tout pour le bien-être des animaux. Une partie de mon travail consiste à faire connaître le refuge et ses animaux. Nous avons un site internet, un compte Instagram SPDA Serrazoureux qui sont régulièrement mis à jour, notamment avec des photos sur le vif ou plus posées.
Alors vous utilisez souvent une abréviation qui est NAC.
Ça veut dire sont les nouveaux animaux de compagnie.
Ah d'accord.
Voilà. Bon, ça regroupe les hamsters,
les cochons d'Inde.
On a eu un serpent que Bénédicte a récupéré d'ailleurs, qui depuis le pauvre.
Plus là.
Voilà. On a eu un singe magot qui n'a pas survécu. C'était à l'époque de Madame Gay, qui était la précédente responsable et présidente du refuge, qui malheureusement nous a quittés, qui était une personne extrêmement investie. C'était quelqu'un de formidable, vraiment. Et c'était important de le rappeler, ça aussi.
Alors, effectivement, on a visité votre site et on a constaté que les locaux étaient très bien aménagés, très conviviaux. Et en particulier, pour les chats, on aurait pu se croire dans une petite maisonnette aménagée avec des fauteuils, des coussins, etc. Ça nous a quand même bien marqué.
Alors, c'est vrai que on a les installations pour les chats, on a essayé de faire au mieux. Les bénévoles nous aident énormément pour le nettoyage, justement, chaque semaine. Elles viennent, elles font un ménage très important.
Et vous avez combien de bénévoles ?
Alors, on en a 45 en tout, et qui sont opérationnels, on va dire, ou présents, on en a une quinzaine, à peu près. Donc c'est vrai que sans eux, ça serait très compliqué de faire fonctionner le refuge.
Puisqu'on parle des bénévoles, les bénévoles, ils sont aussi très présents sur les activités qu'on mène à l'extérieur du refuge. Tu peux nous
en
parler ?
Oui, tout à fait. En dehors de tout ce qui se passe au sein même du refuge, à l'extérieur, il y a aussi beaucoup d'actions. On organise régulièrement des collectes dans les grandes surfaces de la région. D'ailleurs, vous avez pu nous voir tous les ans. Nos animaux sont nourris quasi exclusivement grâce aux dons de nourriture. Sachant que les pôles les plus importants de dépenses sont bien entendu les soins vétérinaires et les dépenses alimentaires. Alors c'est une économie importante justement pour l'association. Et je vous profite de la situation pour vous donner les dates. Les 7 et 14 décembre, nous serons justement dans les grandes surfaces. On sera présent dans 6 grands magasins pour le Noël des animaux. Alors depuis 4 ans, nous avons un partenariat avec l'association de canicourses aussi, du Val Drouette. Monsieur
Cussonnier,
qui est le président, qui organise une grande manifestation en septembre à laquelle nous faisons participer des chiens du refuge. Marcheurs, coureurs et même vététistes viennent concourir dans une ambiance très conviviale. La CCVD nous reverse une partie des bénéfices de cette manifestation. Nous tenons aussi des stands d'information au Forum des associations de Dreux ou de Nogent-le-Roi. Et nous sommes également présents au Gamme Vert de Chaudon. D'ailleurs, nous y serons au mois de novembre. Il y a plusieurs dates pour présenter nos animaux. À titre personnel, j'ai adopté mon chien à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Et si on veut adopter au refuge, comment ça se passe ?
Donc on peut venir au refuge du mardi au samedi entre 14h et 17h. Lorsque les gens viennent, nous discutons avec les potentiels adoptants de leur projet. Pour nous, tout le monde peut avoir un animal, mais celui qui correspond à son organisation de vie. Par exemple, certains chiens ont besoin d'une personne dynamique, d'autres ne s'entendent pas avec les enfants ou avec leurs congénères. Certains chats seront placés uniquement en appartement, etc. L'adoption doit être un acte réfléchi, et réfléchir sur du long terme. C'est pour cela que nous posons beaucoup de questions, que nous échangeons longuement avec les adoptants. Lorsqu'un candidat à l'adoption a été repéré, on le met en contact avec les potentiels adoptants lors d'une balade pour les chiens, à l'intérieur de la maisonnette ou du box pour les chats. Pour nous, adopter un animal de refuge, c'est accepter un animal avec son histoire, parfois ses traumatismes. C'est pour cela que nous conseillons aux nouveaux adoptants de se rapprocher d'un éducateur canin. Au sein du refuge, nous travaillons avec Émilie Texier, qui connaît bien la spécificité des chiens de refuge. Nous la recommandons pour son approche bienveillante et positive. Ensuite, nous signons un contrat d'adoption dans lequel les gens s'engagent à prendre soin de l'animal. La participation financière qui est demandée recouvre une partie des frais vétérinaires d'identification et de stérilisation de l'animal. Ces moments sont souvent de belles rencontres qui sont parfois pour nous chargées d'émotions. Si on a parfois un pincement au cœur de voir partir celui que nous avons protégé pendant un temps plus ou moins long, c'est vraiment la certitude que c'est un départ pour qu'il vive quelque chose de mieux qui nous permet de rendre ce départ positif. Je me souviens par exemple de l'adoption de Google. C'est un Springer, un vrai gentil, toujours heureux, mais qui n'intéressait pas les visiteurs. C'est simple, un chien qui saute dans tous les sens quand on passe devant son box, ce n'est pas très vendeur. Il manque d'activité, notre Google, tout simplement. Et depuis 3 ans, il attend. Un jour, une famille vient au refuge. Ils cherchent un compagnon qui s'entende avec leur chien. Après de longs échanges, une première mise en contact mitigée avec un chien, nous leur proposons de rencontrer Google en dehors de son box. Cette promenade est décisive. L'entreprise de séduction fonctionne tant avec le chien de la maison qu'avec la famille. Google est une boule d'amour cachée derrière son énergie débordante. Dans les semaines qui suivent l'adoption, Google, qui sort régulièrement, joue à la balle, participe à la vie de la famille, se pose beaucoup plus, tout en restant toujours heureux de vivre. Ces gens lui ont laissé sa chance, l'ont accepté avec ses spécificités, et nous les en remercions. Systématiquement, dans les mois qui suivent l'adoption, nous allons faire une visite chez les nouveaux maîtres. C'est pour nous un moyen de vérifier que tout se passe bien et que l'animal a trouvé sa place dans sa nouvelle maison. C'est vrai que maintenant, avec Internet, les gens nous envoient beaucoup plus facilement des nouvelles de nos anciens pensionnaires avec des photos, et ça fait toujours plaisir de les voir heureux. Et puis pour ceux qui restent, pour ceux qui ne trouvent pas leur nouvelle famille, il y a les parrainages.
Parce que oui, au refuge, nous avons des animaux qui sont âgés et ou malades. Cela intéresse peu à l'adoption. Pour eux, nous avons depuis 30 ans des parrains et marraines qui nous aident financièrement afin de subvenir à leurs besoins et à leurs soins vétérinaires dus à leur âge. Ils reçoivent en échange une carte présentant leur filleul et des nouvelles écrites deux fois par an minimum. Certains parrains marraines viennent rendre visite à leur filleul pour partager un moment avec lui ou bien le promener. D'autres qui sont loin peuvent leur envoyer un colis par exemple. Il y a Axel, croisé espagnol de 14 ans, qui est au refuge depuis 7 ans. On ne sait pas pourquoi il n'a pas intéressé d'adoptant, c'est un chien gentil et plein de qualités. Depuis quelques mois, il est sous traitement pour une insuffisance cardiaque, il est moins vif et dort beaucoup. Il y a Diesel, qui vient tout juste de rejoindre le programme de parrainage. Elle a 12 ans et elle a été prise en charge dans des conditions qui n'étaient pas simples. Très maigre, avec un coryza et des dents très abîmées, elle a dû être opérée pour les lui enlever. Elle reprend goût à la vie et dévore des gamelles de croquettes et pâtés spéciales. Les parrainages sont une des façons d'aider la SPDA, mais il y en a plein d'autres.
En effet, il y a plusieurs façons de nous aider. Alors, tous les dons sont les bienvenus. C'est du temps, de l'argent ou du matériel. On peut donner de son temps en devenant bénévole. Alors, le bénévolat, surtout dans la protection animale, c'est un réel engagement. C'est accepter de faire ce qui est utile pour l'association. Ce sont quelquefois des tâches ingrates, hein, il faut le dire, mais ça fait partie du bien-être des animaux, de s'occuper d'eux, que ce soit au refuge ou à l'extérieur. Tenir des stands, participer aux collectes de nourriture, réaliser les contrôles des animaux placés. Les dons de matériel. Alors, nous récupérons tout ce qui sert aux animaux, les couvertures, les coussins, paniers, des laisses, colliers, jouets, médicaments, antipuces par exemple, mais aussi des matériaux pour le bricolage notamment. On peut donner de l'argent. La SPDA vit grâce aux dons et aux legs, et il n'y a pas de petits dons. Et Bénédicte aime souvent dire que c'est la somme des petits qui nous permet de survivre, et c'est très juste. Il faut savoir qu'étant une association d'intérêt général, les sommes qui nous sont versées dans le cadre d'un leg ne sont pas soumises aux frais de succession. De plus, dans le cadre d'un testament, la personne peut décider que la somme qu'elle lègue à la SPDA soit affectée dans la mesure du possible à quelque chose de précis, le fonctionnement annuel, la rénovation ou l'amélioration d'un bâtiment, par exemple. La gestion financière de la SPDA est très rigoureuse. Toute dépense est très réfléchie et le système D est de mise. Ces dernières années, les charges qui pèsent sur notre association sont de plus en plus lourdes, bien évidemment. Les aides baissent drastiquement. Et nous avons réduit au maximum les postes de salariés. C'est le plus lourd dans notre budget. Mais parallèlement, les normes exigent une professionnalisation de notre travail. Nous avons vraiment, vraiment besoin de l'aide de tous. Et pour voir un petit peu plus loin, quels sont les projets pour le refuge ?
C'est sûr que nous débordons d'idées pour améliorer la qualité de vie de nos pensionnaires, mais ce sont les fonds qui manquent. Nous aimerions par exemple créer des parcs de détente extérieurs et sécurisés pour les chats et les chiens. Il faudrait déboiser une parcelle de terrain au refuge, monter des grillages adaptés. Ces parcs répondraient à un besoin réel d'activité qu'ont nos animaux qui vivent enfermés entre quatre murs. Ils permettraient pour les chiens de compléter les promenades, de pouvoir rencontrer leurs adoptants en liberté aussi. Certains box qui accueillent les chats ont besoin d'être rénovés. Vous avez parlé tout à l'heure des maisonnettes. On aimerait bien que nos petits box, qui sont les plus anciens, qui sont froids et humides, puissent être transformés en maisonnettes plus spacieuses et qu'on peut aménager de manière plus proche d'une vraie maison. Et puis, dans les grands projets, il y a aussi la création d'une structure en semi-liberté qui nous permettrait d'accueillir nos chats plus sauvages qui sont difficiles à adopter, voire qui ne seront jamais adoptés et qui donc finiront leur vie ou vivront leur vie, en tout cas, chez nous. Pour finir, nous vous donnons les coordonnées pour nous contacter.
Donc, venez nous voir du mardi au samedi entre 14h et 17h à Bouconville, commune de Serrazereux. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 02 37 65 23 58 ou bien par email à l'adresse bonjour@spda.fr. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet www.spda.fr.
Alors, vous avez des interventions à l'extérieur du refuge, comme par exemple des conférences. Vous pouvez nous donner quelques exemples de conférences que vous faites ou de relations que vous avez avec les écoles, les jeunes, etc.
Alors, on intervient à la demande d'écoles ou de collèges de différentes manières. C'est vraiment l'objectif principal, c'est de sensibiliser les enfants et les jeunes à la cause animale. Ce sont les futurs adultes, c'est eux qui plus tard prendront notre place, c'est eux qui s'occuperont des animaux une fois adultes. Et s'ils sont sensibilisés dès leur plus jeune âge, c'est nous aider à avoir de futurs adultes responsables et respectueux des animaux.
Vous en faites de temps en temps des conférences ? Alors, vous expliquez un petit peu ce que vous faites ou...
Non, on n'a pas encore eu l'occasion de faire des conférences.
Ah oui.
non, mais c'est vrai ce que dit Bénédicte, que de commencer dans les écoles, c'est le point de départ.
Oui,
tout voilà, se joue à ce moment-là. Leur apprendre à être respectueux des animaux. D'ailleurs, quand on fait des adoptions, on le précise. Il faut vraiment que les enfants qui sont dans le foyer qui adoptent, soient patients, parce que nos animaux ont un passé, soient patients, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une peluche, on le répétera jamais assez. Et ils doivent être, c'est eux, dans un premier temps, qui doivent être respectueux envers l'animal. C'est eux qui doivent s'adapter. Donc c'est vraiment à cet âge-là qu'il faut les sensibiliser.
Et les personnes qui vous visitent, donc vous avez 2 jours, hein, c'est ça, le mardi ?
Non, 5 jours, du mardi au samedi.
Mardi au samedi. C'est des familles ou des personnes isolées ou des personnes âgées ?
C'est très éclectique. C'est vraiment, ça va du jeune couple, en passant par des familles, des personnes seules également. Donc c'est vraiment, on a un peu de tout, c'est pas...
Des personnes âgées aussi qui ont toujours eu des animaux, qui perdent leur animal et qui ne souhaitent pas reprendre un jeune animal parce que l'âge de la personne étant là, c'est vrai que de prendre un chaton quand on est âgé, c'est pas forcément le choix le plus judicieux. Et du coup, l'idée de venir faire un sauvetage et de retrouver un compagnon pour le quotidien, c'est vraiment ce qui amène souvent les gens à venir vers nous, quoi.
Et on vous appelle de temps en temps pour des abandons ?
Très souvent. Trop souvent.
Donc vous avez dans votre refuge des chiens et des chats qui ont été abandonnés sur dans la rue, quoi. Enfin, je veux dire, où on vous amène des chats et des chiens.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nous appellent en disant qu'ils ne peuvent plus ou ne veulent plus s'occuper de leur animal pour des raisons diverses et variées. Que l'on s'abstient de juger. Voilà, au moins ils font la démarche de venir jusqu'au refuge plutôt que de l'abandonner sur une aire d'autoroute ou dans un carton à côté d'une poubelle ou que sais-je, d'autres histoires qu'on peut entendre. Ils viennent au refuge, on a souvent une liste d'attente, donc c'est jamais immédiat, mais ils amènent leur animal au refuge et on prend en charge l'animal. Voilà. Donc des fois, on a des animaux qui ont toujours été très heureux dans leur foyer, qui vivaient avec une personne qui décède, par exemple, ou qui rentre en maison de retraite. Voilà, c'est des animaux qui étaient très heureux là où ils étaient, qui ne comprennent pas pourquoi ils arrivent au refuge. C'est toujours assez dramatique comme histoire. Et puis, il y en a d'autres qui... étaient sans être malheureux là où ils étaient, mais qui avaient juste le nécessaire. Et puis, au final, juste le nécessaire, ils l'ont aussi au refuge. Et puis après, quand ils seront adoptés, ils auront le nécessaire et le plus. Le plus d'affection, le plus de sorties, plus considéré.
Et pour les animaux un peu exceptionnels que vous avez, là, vous trouvez des acquéreurs pour les hamsters
Le racquéreur, non. Adoptant, oui. Alors, jusqu'à présent, le singe magot dont je vous parlais tout à l'heure, non, le pauvre, parce que malheureusement, il n'a pas survécu. Les conditions ne sont pas les bonnes en France pour un singe magot. C'était une saisie. Ça fait déjà plusieurs années.
Et puis, au point de vue nourriture, sûrement.
Voilà, c'est ça.
C'est facile à nourrir.
À soigner, parce que certains animaux, il faut quand même des vétérinaires spécialisés. Mais là... en ce qui concerne ce cas précis, malheureusement, il n'a pas survécu. Ensuite, le serpent, dont on parlait tout à l'heure également, bien, lui, il a bien vécu. Le paon aussi, parce qu'une fois qu'il a été adopté, il a fondé une famille, il a eu un bébé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tous les petits animaux de compagnie, tels que les rats ou les hamsters. On a moins d'hamsters, on a plus de
cochons
d'Inde. Voilà. Donc oui, on arrive à les placer, oui, assez facilement.
Alors, on arrive au terme de l'émission. Alors, habituellement, on demande aux invités la musique qu'ils souhaitent passer. Alors, vous avez choisi quelle musique ?
Alors, nous avons choisi « Un drôle d'animal » de Calogero. Ça définit bien la situation, la considération que l'homme peut avoir de l'animal et surtout notre façon d'être vis-à-vis de tous les animaux. Voilà.
Alors vous avez les paroles, vous pouvez nous donner un peu le thème.
Je vais vous lire le premier couplet. Mmh. Qui ne sait pas voler mais chasse les oiseaux, qui sous l'eau ne sait pas respirer, mais qui suis-je donc ? Pour me croire le plus fort, pour me croire tout permis, me donner le droit de vie et de mort, devine que dire encore. Et ensuite il enchaîne sur « Je suis le moins humain des animaux ». Parce que n'oublions pas que nous, humains, nous sommes un animal comme un autre.
Eh bien, merci d'être venu.
Merci.
Et ben, on donne pour nos auditeurs un prochain rendez-vous. Ce sera le mois prochain. On sera pas loin de la fin de l'année. On écoutera de la musique de Noël. Donc, bonne journée et à bientôt.
Merci. Merci.
Chasse les oiseaux, qui sous l'eau ne sait pas respirer. Mais qui suis-je donc pour me croire le plus fort, pour me croire tout permis, me donner le droit de vie et de mort. Que dire encore?
Je suis le moins humain des animaux.
Je suis le pire.
Je pense à rien qu'à sauver ma peau.
Pour ainsi dire,
le plus sauvage des fours en cage. Je suis de loin le moins beau.
Qui invente la bombe? Qui se moque?
Je suis de loin.